Nous continuons avec l'association Avenir des Choisis.
Et oui, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Fabio Soprano, un remix. Je voulais savoir ce qu'il en était de l'entrée dans la vie professionnelle.
C'est très, 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 très compliqué. En fait, dès qu'ils ont des diplômes, bon, c'est une bonne chose, mais après, il faut postuler, passer des entretiens, et bien entendu, les entretiens, c'est compliqué, puisque le langage étant difficile, ben, ils sont incompris, et ils sont mis de côté, ils sont jamais embauchés. Donc c'est très très compliqué pour l'emploi. Vérane en est le témoin, elle essaie de...
Oui, depuis, je suis un peu un témoin, je suis en recherche d'emploi, j'ai plein de diplômes, certes, mais ça n'empêche pas que je n'ai jamais réussi à trouver un CDD, quel que soit, même si c'est pas en lien avec mes diplômes, j'arrive pas à trouver un emploi pérenne ou un petit job alimentaire, parce que soit on me reproche pas de... gestion de manque de confiance en soi, soit pas de recrutement possible, soit RQTH, ben non, on ne recrute pas. Or, il y a une loi dans la France et sur la loi française, Michel peut vous en dire plus parce qu'elle se bat avec moi contre ces papiers juridiques. Entretien d'embauche, quand on est prise, yes, on est prise en entretien, donc on est tout fier, on se prépare par des simulations d'entretien et tout ça, comme ben, tout le monde du coup. Mais quand on se prépare devant l'entretien, et ben du coup, ben, là, il peut avoir un bug du stress. Et c'est là où il y a tout qui se mélange au niveau du langage. Et du coup, ben, là, on n'est pas prise du coup.
Ben voilà, c'est un peu pareil pour tous.
Et d'où je rajoute quelque chose qui est un peu plus, d'où j'ai fait une simulation d'entretien avec avec Wally, le vice-président de l'association qui est pas là, mais je pense qu'il nous entend. Du coup, et il m'a dit que je faisais très bien l'entretien d'embauche, mais que du coup, il fallait que l'employeur s'adapte à notre handicap, d'où le fait que sous notre CV, sous notre lettre de motivation, il faut bien indiquer notre RQTH et notre handicap au préalable. Mais sauf qu'il y a peu d'employeurs qui connaissent les handicaps invisibles, ils connaissent plus les handicaps moteurs.
Oui, j'allais dire après, même s'ils trouvent un emploi, ce qui est compliqué, c'est toujours la même chose que quand ils sont à l'école, ils sont fatigables.
Oui.
Et après, ils ont aussi un problème de lenteur. Et ça, c'est pas comme pour un fauteuil roulant, c'est-à-dire on met pas une hauteur de table. Il faut vraiment s'adapter à leur spécificité, quoi. C'est-à-dire penser qu'il va falloir du temps pour qu'ils soient vraiment au point sur une tâche. Peut-être les aider dans les tâches avec d'autres outils, des affiches ou ce qu'on veut, leur faire des tâches qui sont accessibles. Mmh. Et aussi un problème de communication avec les autres dans l'entreprise. Voilà. Souvent, le gros problème est là. C'est la communication avec le chef ou avec ses collègues. C'est la lenteur et la fatigabilité, et ça, forcément, dans les handicaps invisibles, c'est pas forcément pris en compte.
Alors, effectivement, c'est pas pris en compte, et souvent, ce sont des employés modèles, on va dire, un peu trop modèles, parce que pour faire le même travail, ils vont rester plus longtemps. Les gens ne sont pas ouverts à accueillir des personnes comme nos jeunes.
Je vais donner un cas, par exemple, de quelqu'un qui on a eu plusieurs cas.
Oui, on a plusieurs.
Ton fils, seulement.
Oui,
pour écrire un mail, il va dicter à son téléphone, il va le faire lire au téléphone pour se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc, il va le redicter. Écrire un mail peut prendre une heure ou une heure et demie.
Voilà.
Donc, il fait ça le soir quand il a fini son travail et qu'il doit écrire ses mails, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est du travail qui est aussi invisible, comme le handicap d'ailleurs, c'est du travail qui est invisible puisqu'il se fait en dehors, mais ça leur prend énormément de temps, quoi.
Voilà.
Et comme ils veulent toujours bien faire et que ce soit parfait, eh ben, ils mettent le temps qu'il faut.
Comme du coup, maintenant qu'on a la RQTH, du coup la reconnaissance travailleur handicapé, il peut avoir aussi, du coup on est suivi plus par Pôle emploi, mais par Cap emploi du coup. Mais moi par exemple qui habite dans le Tarn, il existe un dispositif Delta du coup qui met en place chaque semaine une conseillère par semaine à faire des lettres de motivation et des CV, mais des fois ils sont pas habilités à savoir qu'est-ce que c'est vraiment, c'est des handicaps invisibles et les 10, d'où est mon problème de communication.
Alors plateforme Delta, en fait, c'est l'emploi accompagné. Oui. Effectivement, c'est pareil aussi dans la Haute-Garonne, c'est un peu pareil. Ce ne sont pas les mêmes associations qui gèrent l'emploi accompagné. Ils aident, mais normalement, ils sont censés aider pour trouver un travail, faire des CV, faire des entretiens d'embauche.
Accompagner sur la prise de poste.
Et sur, voilà, accompagner à la prise de poste, c'est-à-dire faire le lien entre l'employé, l'employeur, pour que ça se passe mieux. Sauf que, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Mon fils, il est jeune d'avoir un poste comme ça, quoi. Il a fait des entretiens, mais il n'a jamais été pris. Et le plus bel entretien qu'il ait fait, là, le dernier, on lui a reproché son langage. Alors là, quand j'ai su ça, j'ai fait « Oh !» Oui, mais c'est son trouble. Comment on peut discriminer, parce que pour moi, c'est de la discrimination, quelqu'un dans un entretien en disant « Ah ben, son langage, c'est pas, ça va pas. » Alors que c'est le trouble réel qu'il a et qui devrait être compensé, ce trouble.
Te dire, c'est comme reprocher à quelqu'un qui est en fauteuil roulant, vous êtes en fauteuil roulant. Il est très bien votre entretien, mais vous êtes en fauteuil roulant. C'est pareil.
Oui, c'est pareil.
C'est de la discrimination et c'est pareil.
Pour un jeune adulte, par exemple, même un rendez-vous de santé, d'accord, il faut normalement qu'il soit accompagné par c'est pas vrai tout. Et ça, le monde médical ne l'accepte pas forcément, quoi.
Oui, voilà. Alors qu'il y a des textes, il y a un texte, il y a la personne de confiance. Et normalement, quand le jeune doit aller chez un médecin, il peut se faire accompagner de la personne de confiance. Ça, il faut le savoir. Ouais. Par contre, c'est moins facile pour Pôle emploi et pour Cap emploi. Là, nous avons à l'association une carte de facilitation. Et mon fils, grâce à cette carte, il a pu se faire entendre de la personne de Pôle emploi. En fait, quand il ne voulait pas s'en servir de cette carte. Et il y a juste marqué qu'il porteur du trouble de la dysphasie, il ne voulait pas s'en servir. Mais quand il s'est trouvé devant la personne de Pôle emploi, et qui, c'était Maine en France Travail, qui lui regardait avec des yeux ahuris, il a dit « Bon, attendez ». Il a sorti sa carte, il lui a présenté. Et du coup, la personne en face a eu une autre approche pour parler avec lui et pour dialoguer. Et j'ai trouvé que cette démarche, finalement, elle avait été positive. Alors lui, qui ne voulait pas du tout s'en servir, maintenant, quand il voit que les personnes en face ne captent pas ou ne rentrent pas dans sa conversation, il fait comme ça.
Ben que le handicap était pour tous les jours, même dans la santé, même dans,
voilà, dans, la santé,
dans les courses.
Voilà. Mais c'est vrai que pour l'emploi, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas être accompagné. Voilà.
Pour être clair, on en a toujours pris pour un idiot, d'après les médecins, hein. On est dans un monde où tout évolue. Malheureusement, nous, on est mis de côté. Ça, c'est pas normal. Mais bon, après, ça, c'est notre lutte, notre combat. Pour vous dire, tout simplement, moi, j'ai eu une scolarité très difficile. Si j'ai pas été soutenu par ma famille et par les amis que je me suis créé au fur du temps, je ne serais pas là ici, grâce à l'association aussi. Parce que il faut être soutenu, c'est important d'être soutenu en tant que dysphasique, même si moi, pour ma part, j'ai voulu aider mon prochain, surtout en tant qu'éducateur. Maintenant, je suis passé au ministère de la Justice, donc je travaille en tant qu'éducateur, et c'est vrai qu'on a des notes régulières, en fait on rédige énormément. Ça ne se voit plus parce que j'ai des outils qui sont mis à disposition. Antidote, Dragon, on met des stratagèmes, en fait. On est pour un employeur ou l'école ou le collège, le lycée, pour nous, pour eux, ils nous voient comme des ovnis, en fait, des extraterrestres. Pour ma part, c'est toute mon enfance, c'est comme ça qu'on nous avait perçus, en fait. On a essayé de nous descendre, me descendre à plusieurs reprises en me disant t'es incapable d'avoir ton bac, un BTS, un bac plus 3. Et ça continue. Je suis capable.
Mais le problème, c'est que c'est la même chose dans la vie de tous les jours.
Oui.
C'est le même parcours, le même combat. Ce sont des jeunes qui sont isolés, qui se sentent isolés, qui n'ont pas d'amis. On ne peut pas dire qu'ils aient réellement des copains et des camarades. Ils ne sortent pas, ils sont isolés. Ils essaient de faire pour leur mieux. Mais quand ils sont dans une conversation, ils vont écouter. Mais ils ne vont pas forcément rentrer dans la conversation. Ils ont du mal à enclencher une conversation avec d'autres, avec les autres. Et du coup, ils se sentent isolés. Et ils sont isolés. Ils sont mis de côté. C'est pour ça qu'à l'association, pour pallier à ce problème de liens sociaux qui n'y sont pas, sa habilité langagière, je reviens sur le mot parce que j'ai trouvé ça trop bien et ça qualifie exactement ce handicap, on a fait des cafés rencontres, non seulement pour les parents, pour aider les parents, pour que les parents sachent ce que l'on fait, mais qu'ils ne sont pas tout seuls, et qu'on a des jeunes qui ont quand même poursuivi des études. Donc il y a ces cafés-rencontres, où il y a même des jeunes qui viennent se présenter, qui viennent et dire leur parcours, qui viennent dire et viennent expliquer leur parcours. Puis on fait des soirées jeux de société, où là c'est ouvert à tous, qu'on soit jeunes, les petits, comme les moins jeunes, on est tous là pour partager des jeux de société, et du coup le langage, il se fait naturellement, et il n'y a pas de discrimination. On fait aussi... Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des sorties. Ça, c'est Laurent qui s'en occupe. On fait des sorties en montagne de temps en temps.
On fait des balades, oui. On fait du ski de fond. Et on fait aussi... Après, on a mis en place cette année un groupe de jeunes adultes.
Oui.
Qui fonctionne très bien jusqu'à présent, qui font des sorties entre eux. Donc, l'objectif, c'est que... Ils s'organisent des sorties, donc ils y arrivent quand même relativement bien. Voilà. Donc ils font des sorties à peu près tous les mois. Et ça crée pas mal de liens sociaux entre eux, je pense que c'est important. Mais tout ce qu'on fait, c'est dans la bienveillance. C'est-à-dire que l'avantage des jeunes et des parents et tout, c'est qu'il n'y a pas de jugement. En tous les cas, il n'y a aucun jugement dans l'association. C'est-à-dire que quand on vient comme on est, et il n'y a aucun jugement. Donc les gens n'ont pas peur en général.
Du coup, on organise des soirées jeunes adultes pour plus de cohésion sociale entre un samedi par mois, du coup. Pour par exemple, ce mois-ci, c'était un escape game, et, ou alors un bowling, ou alors pour une sorte de moment de partage et d'ambiance en toute convivialité pour enlever ce mot handicap et cette barrière, et pour rester moins isolé dans notre vie quotidienne, du coup. Je laisse la parole à la présidente pour présenter...
Donc, pour présenter les rencontres nationales, les dixièmes rencontres, non, c'est pas les dixièmes, c'est les 10 ans des rencontres nationales des jeunes adultes dysphasiques qui vont se dérouler cette année, du 7 au 9 juin, pour le week-end de Pentecôte, ça va se passer à Toulouse. Les jeunes, ils attendent ces rencontres avec grande impatience. Ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois il y a 2 ans, c'était à Andernos. Les années précédentes, ça a été Paris. Il y a eu Bordeaux. Il y a eu Lyon. Je ne sais plus, Brest aussi. Bon, ils se rencontrent un petit peu partout. Et donc, ceux qui ont déjà goûté à ces sorties, à ces rencontres, ils leur tardent de se retrouver une autre fois, quoi. Parce qu'ils aiment bien se retrouver, en fait.
En fait, selon le niveau national, ils ont le même problème qu'ici. Ils sont seuls.
Mais voilà.
Et ils ont besoin de voir du monde, quoi. Et c'est vrai qu'après, on a fait un groupe, ils discutent entre eux. Et c'est des gens qui ont besoin de ça. Et ils attendent ça, effectivement, longtemps. Et ça crée quand même des liens qui durent, parce que c'est vrai qu'ils partagent encore d'il y a 2 ans, ils partagent encore, ils discutent entre eux, et voilà. Donc c'est quand même très très important pour eux, et ça permet aussi de partager les expériences d'emploi, de voir des différentes dysphasies.
Oui, surtout moi qui ai un enfant, oui, c'est vrai que ça me tarde beaucoup de revoir les autres, de discuter entre nous. On a le même problème, on a les mêmes dys parfois, donc voilà. Donc c'est vrai que ça nous tarde beaucoup, nous aussi.
Mais par exemple, avec Fabio, j'ai un point commun, c'est le théâtre. Et du coup, on est chacun dans un club différent de théâtre, mais du coup, grâce au théâtre, on apprend des tips, des conseils en anglais. Et du coup, on se les échange, et du coup, ça nous aide à nous montrer dans la vie quotidienne, à comment savoir prendre le train, à comment savoir prendre le bus et tout ça. Comme moi, je savais pas du tout en 2018 prendre le train toute seule, et finalement, je deviens une des premières à savoir prendre le train et le métro toute seule dans Toulouse, chose qui est énormément angoissante, et voilà. Et du coup, grâce à nos points communs du théâtre, on fait un peu imbécile, mais dans le sens bon du terme, c'est-à-dire le clown, et du coup ça met de la bonne joie et de la bonne humeur à tout le monde.
C'est vrai que parfois les consignes, ça peut servir qu'on saute au trou. Donc voilà, comme elle a dit...
Un lâcher prise, quoi.
Voilà.
Et j'ajoute, même pour nous les parents, le facteur humain est vraiment très très important.
Oui.
Voilà, moi je remercie Laurent et je remercie Michel vachement, parce qu'en tant que parente, c'est très agréable de se retrouver, les soirées-jeux sont attendues parce que c'est très important pour nous, ce sont des moments conviviaux. Et vraiment, on a l'air du numérique, mais tous les sites possibles, imaginables, avec des astuces, des trucs, ou des tutos, etc. Mais rien ne vaut le facteur humain.
Alors, c'est vrai qu'à l'association, on est toujours en train de chercher des idées, en tous les cas, pour soit animer nos adhérents, soit les aider. Alors, il y a, cette année, on a enfin réussi à faire des ateliers cuisine.
Voilà. Oui, on a fait un atelier cuisine.
Oui, petit appel,
super bien passé.
S'il y a des gens qui ont un espace où on peut faire la cuisine avec l'asso, on est bienvenus parce qu'on a du mal à trouver. Les salles de la mairie ne sont pas équipées pour. Voilà, donc on a du mal à trouver une salle sur Toulouse qui nous accueille et qui nous permet de faire de la cuisine. Simple, hein, bien sûr. Donc l'objectif, c'est toujours pareil, c'est de partager des bons moments et en plus de leur apprendre à gérer un budget ou à faire des choses comme ça. On a aussi lancement, on est en train de mettre en place un atelier d'estime de soi pour des enfants du primaire.
D'élémentaire.
D'élémentaire, voilà. Donc c'est pareil, s'il y a des parents qui ont des enfants dysphasiques entre 7 et 10 ans, ben, ils sont les bienvenus pour venir à l'association pour l'an prochain.
La Sofro.
On a fait
l'atelier Sofro.
Oui. C'est vrai, on a fait l'atelier Sofro, oui.
Moi, je voudrais quand même dire que l'association, je suis obligée de le dire quand même, parce qu'elle pourrait pas, elle n'a pas de local, donc on est hébergé par la mairie de Toulouse. Heureusement qu'elle est là. On paie une adhésion. Et grâce à ça, la mairie met à notre disposition des salles. Et c'est grâce à ces salles que nous pouvons faire les soirées, les cafés-rencontres, et que nous allons pouvoir accueillir les jeunes adultes pour le week-end de Pentecôte.
On a créé une communauté WhatsApp où les gens s'entraident. Et c'est une communauté où, en fait, ils ont des discussions par thème. Donc, il y a la scolarité, il y a l'emploi, il y a beaucoup de choses. Un groupe de jeunes adultes. Et donc, on se sert essentiellement de ça pour pouvoir être au plus proche des questions. C'est-à-dire que c'est du direct. En fait, les gens posent leurs questions, il y en a d'autres qui répondent par leur expérience. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être le plus à jour possible, contrairement au site internet qui, lui, ne serait pas tout le temps à jour en tous les cas, quoi.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les auditeurs, auditrices retiennent à l'issue de cette émission ?
Moi, j'ai une petite idée.
C'est dur à choisir.
On entend beaucoup, beaucoup de parentes et des parents d'enfants qui ont des 10 dire... Oui, mais c'est débrouille très bien tout seul. Je ne vais pas passer par l'MDPH. Je ne vais pas demander d'AESH parce que il sera discriminé plus tard. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute, essayer de ne pas occulter le handicap de son enfant, parce qu'on a énormément d'enfants dans le système scolaire et dans la vie qui ont encore plus de difficultés, justement parce qu'on essaie d'occulter et de ne pas voir en face son handicap. Ouais. Juste ça.
Parce que je rentre pour tout le monde, c'est pour les autres parents, ceux qui ne comprennent pas, ben c'est pas d'essayer de se mettre à la place, mais tout simplement d'accepter et d'accepter les autres tels qu'ils sont, en tous les cas. Voilà. Et d'arrêter avec les préjugés et compagnie, parce que c'est, tout le monde a sa place, et effectivement, chacun vit comme il a envie et avec ses capacités. Et il faut qu'ils apprennent effectivement de le vivre ensemble, tout simplement.
Moi, je dirais que c'est accepter si son enfant il n'arrive pas à lire. Et je dis bien n'arrive pas à lire normalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne sache pas lire. C'est qu'il ne peut pas lire normalement. Accepter qu'il soit comme ça et qu'il y a des aides maintenant pour lire à sa place avec des ordinateurs. Il y a des ordinateurs qui écrivent sous la dictée. Il y a des ordinateurs qui lisent. Même le simple ordinateur... ordinaire maintenant, eh bien, on peut dicter à son ordinateur et lire les documents sur l'ordinateur. Donc voilà, il ne faut plus les bloquer, ces jeunes, avec il faut à tout prix savoir lire, à tout prix, voilà. Un jeune qui ne lit pas, eh bien, c'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas. Mon fils, juste une petite parenthèse, mon fils, il a su dire à l'âge de 20 ans, à son AESH, que pour lui, les lettres, c'était des signes qui ne correspondaient à rien. Avec ça, on comprend pourquoi la lecture des 10 est quelquefois très difficile.
Et moi, juste une petite aparté qui est un peu importante. J'ai appris grâce à... en jouant tout simplement avec mon neveu de 8 ans. Je savais pas encore qu'il était dyslexique, mais du coup, c'est-à-dire dyslexique, c'est-à-dire qu'il confond les lettres, du coup. Et j'ai appris que il aime pas l'école. Il adore l'école, mais qu'il aime pas la lecture et du coup, il aime pas l'écriture non plus. Donc, on a trouvé un autre moyen, le dessin, l'aquarelle, le fait d'être à la montagne avec des animaux. Et du coup, ça nous mène, vu que moi j'ai fait des études de géographie, ça nous fait un point commun et ça nous mène à que il me montre plein de compétences que moi j'ai même pas et que je connais même pas et que il étonne même ses parents, du coup, mon grand frère et ma belle-sœur, à faire plein de choses extraordinaires, alors que du coup, voilà. Du coup, pour retenir de cette anecdote, on peut dire que tous on est différents et que tous on est unique, mais que du coup, même si on peut pas et on n'arrive pas à lire et écrire, il y a d'autres moyens et compensations, et on a tous une compétence en soi qu'il faut développer, du coup.
Et ça n'empêche pas de faire des études.
Voilà. Et à vivre normalement, comme vous et moi.
Oui, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci pour tous nos jeunes, merci pour les parents aussi. Et j'espère aussi pour les enseignants, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter, qui vont entendre notre petit message. Voilà, merci beaucoup à Canal Sud de nous avoir accueillis.
Merci.
Merci.
Avec plaisir. Au revoir. On passe à la chanson Amel Bent et après je voudrais vous faire une surprise. Oui, c'est bon.
Ok, oui, c'est bon.
C'est parti.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne